Alors, on va commencer la première session intitulée Vrai punk, faux frère. Modérateur Nicolas, pile à l'heure. Et puis, je te cède le micro bien volontiers.
Donc, bonjour à tous. Ce matin, je modère et j'interviendrai ce soir. Et donc, je vais commencer donc, par introduire donc, Natacha Jaffery d'Ombre, si je n'écorche pas ton nom. Donc, ancienne membre affiliée au laboratoire d'anthropologie sociale, docteur en anthropologie de l'université d'Aix-Marseille, avec des travaux qui portent sur les classifications socio-raciales dans les Amériques noires, donc plutôt Haïti, Caraïbes, mais aussi partie prenante de la scène punk alternative parisienne à travers divers projets de performances, galeristes, happening. J'ai aussi vu chant. Costumes de scène et autres collages. Et donc, elle va nous faire une intervention sur punk, rockers et hippies, frères, ennemis, rupture et continuité. C'est à toi.
Bonjour. En fait, je me suis aperçue que mon intervention serait très longue. Donc, j'ai divisé en trois parties ce travail. Donc, il s'appelait en effet punk, rockers et hippies, des frères ennemis, ruptures et continuité. Mais en fait, je ne vais aborder que la première partie qui s'intitule « Le punk rocker, un oxymore ». Alors, ça me paraît mieux, ouais. Si l'impulsion et la raison d'être fondamentale du punk résident dans sa volonté affichée de rompre avec le puissant courant musical qu'est le rock'n'roll, il n'en garde pas moins dans sa structure musicale, comme dans ses thématiques de rébellion et d'affirmation primitiviste, une indéfectible parenté avec le genre qu'il prétend abolir. Donc, il s'agira au cours de ma communication d'analyser en quoi la généalogie du punk le place dans une situation un peu inextricable, d'être à la fois outsider et héritier. Et le même examen sera fait des liens qui unissent malgré eux les punks et les hippies, les punks et les beats, et montrer en quoi ces antagonismes ont été féconds. Alors, petite introduction rapidement, au-delà des chapelles de fans qui sont par nature intolérantes, les musiciens font avant tout de la musique et les tirades enflammées ont la sincérité de déclarations faites aux médias. Ce sont surtout des manières de dire son authenticité, de mobiliser un public. Et on sait qu'il y a une longue tradition de bravade dans l'univers de la musique populaire. La réalité du terrain, en fait, ce qu'on retire de l'écoute des groupes punk, et je m'intéresserai ici à la période fondatrice, la première, sont bien plutôt des antagonismes féconds et des intersections manifestes entre ces courants. C'est ce que je vais tenter d'apercevoir en interrogeant donc la relation entre punk et rock. Alors, deuxième préambule, je ne souscris pas aux étiquettes d'une manière générale, mais je viens d'une époque où elles ont été très importantes et elles pouvaient décider de la suite d'une soirée pour un badge, un insigne, qui n'était quelconque qu'aux yeux des profanes. Donc ça me paraît important de comprendre d'essayer de comprendre, en tout cas, au-delà d'une réticence à catégoriser les gens, pourquoi on s'est à ce point écharpé en cette fin de XXe siècle pour des détails vestimentaires qui signalaient nos appartenances sectaires supposées. Et puis, certains parmi vous, les plus spécialistes, auront peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut bien commencer par le commencement. Et donc, avant de parler de crust, de greencore ou de trashcore, il faut bien parler peut-être de hippie une autre fois, mais déjà place au rock, pour commencer. Alors, le punk rocker a un oxymore, point d'interrogation. Selon le glossaire de Ross Finlay, qui est auteur d'une étude sur Richard Hell, le rock'n'roll est défini, je le cite, comme un genre musical né aux États-Unis dans les années 50 et combinant divers éléments du rhythm and blues et de la musique country. Il visait principalement les adolescents et était lié à la rébellion dans la culture des jeunes tout juste émergente. Alors fondamentalement lié à la jeunesse, qui exprimait par là, comme d'autres générations avant elle, la spécificité de ses aspirations par rapport à celles de ses aînés, le rock'n'roll a connu depuis ses débuts, qu'on vient de définir donc avec Finlay, diverses transformations. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si, oui ou non, le punk, c'est aussi du rock. Alors, pour Grell Marcus, dans Lipstick Faces, qui est un ouvrage de 98, le punk sonne la fin du rock. Il écrit, hormis les productions obscures de quelques prophètes cultes, des avatars américains tels que Captain Beefheart, Velvet Underground et les Stooges de la fin des années 60, les New York Dolls et Jonathan Richman et les Modern Lovers, le punk discrédita immédiatement la musique qui le précédait. Donc, fin de citation. Mais évidemment, comme toute génération, en détruisant une tradition, le punk en révélait une autre. fatalement. En fait, ce seraient les fourvoiements de l'industrie du disque des années 60 qui auraient altéré l'authenticité des revendications portées par le rock pour en faire un produit de consommation courante lié à la publicité, à l'industrie du divertissement. Et Marcus ajoute que, en tant que produit des blancs de la classe moyenne américaine, le rock ne saurait que simuler, je le cite, simuler l'aventure et le risque comme cliché d'une époque cliché. Donc pour lui, le punk aurait sonné le glas de cette musique devenue mainstream et commerciale en apportant un surcroît d'énergie brute et surtout, et c'est fondamental je crois, un amateurisme fondamental. Le punk s'oppose au genre dont il découle et auquel il appartiendrait donc toujours pour d'autres par une forme de primitivisme dénué de toute fioriture. Alors Ross Finney essaye de décortiquer un petit peu d'un point de vue du genre musical ce qui les différencie. Il écrit « Les pianos ont, alors je traduis comme ça rapidement, les pianos faisaient partie intégrale du rock depuis le début avec des stars du piano donc comme Jerry Lee Lewis et Little Richard. Et bien que beaucoup de groupes de punk se soient inspirés du début du rock'n'roll, il n'y avait plus le piano boogie-woogie typique donc de cette période. » Et les raisons de cette absence du piano, pour lui, c'est ça tient au fait que les punks n'étaient pas des musiciens formés et qu'en général, les groupes de punk sont montés par des gamins qui n'ont pas de formation musicale ou quasiment pas. Ce qui reste du punk, en fait, ce qui reste du rock dans le punk, c'est vraiment l'os, une guitare ou deux, une basse et la batterie. L'instrumentation punk est très simple, typiquement du 4-4, comme la plupart de la musique populaire, il oublie de dire musique populaire européenne, la batterie est jouée sur un rythme plutôt rapide. Cette vitesse, c'est un élément crucial du punk, et j'allais le dire un peu comme le rock, et d'ailleurs quand on voit le cas du rockabilly qui a été une forme de renaissance du rock, ça a été par l'accélération du tempo. Donc ces batteurs finalement jouent sur un beat classique du rock'n'roll, mais avec très peu d'éléments de fioriture pour s'adapter à la vitesse accrue à laquelle ils jouent. Et ils préfèrent, alors c'est une traduction, n'étant pas musicienne, je parle sous votre contrôle, les guitaristes de la salle. Les guitaristes préfèrent généralement les accords rythmiques par-dessus les parties jouées par la guitare lead, avec de simples licks, donc des petits groupes de notes, joués sur une gamme pentatonique mineure, qui est la base de la plupart des solos de guitare. Curieusement, dit-il, les guitaristes punk évitent généralement les notes bleues, c'est-à-dire les notes jouées avec un léger abaissement d'un demi-ton maximum, qui donnait ce ton, cette texture bluesy typique. Et ils leur préfèrent des riffs majeurs, ce qui remonte en fait à Chuck Berry, qu'on considère comme le père du rock'n'roll, parce que justement il rompt avec le rhythm and blues par cette technique que les punks reprennent donc. Les accords donc sont fondement principal du punk, avec et beaucoup de cette musique correspond à ce stéréotype bien connu des trois accords, premier accord, quatrième et cinquième des accords majeurs, et puis également absence d'autres instrumentations, avait traditionnellement construit les murs de son qui camouflaient la simplicité finalement de la structure des morceaux rock, 32 mesures et trois accords. Donc voilà pour ces précisions, donc un peu de musicologie. Donc un autre auteur qui écrit dans l'encyclopédie l'antirévisionnisme un article qui s'appelle Culture populaire et théorie révolutionnaire, puisque la gauche anglaise s'est beaucoup intéressée au punk hein, pour des raisons évidentes. En Angleterre, le punk touchait quasiment toute la classe ouvrière, enfin une grande partie. Il écrit musicalement, le punk fait pleinement partie du mouvement de la nouvelle vague qui revenait aux basiques du rock'n'roll, un rock'n'roll très énergique, joué rapidement, haut et fort. Le punk met l'accent sur la courte durée, contrairement aux solos de forme libre et aux jams qui sont typiques donc des musiciens rock établis. Alors pourtant, malgré toutes ces précisions, on parle bien en Angleterre comme aux États-Unis de punk rock. En précisant donc d'un côté, il s'agirait plutôt d'un mouvement contre-culturel aux États-Unis et d'un mouvement sous-culturel plutôt propre à la classe ouvrière, même si les musiciens peuvent très facilement faire partie des classes moyennes, c'est pas un problème. En tout cas, on parle de punk rock. Donc, est-ce que le punk est le fossoyeur ou le continuateur du rock? Est-ce qu'il reprend ses valeurs ou est-ce qu'il s'en détourne? Il semblerait que ces deux genres ont en commun la célébration d'un style de vie libre, des références aux drogues par exemple, mais le jazz en est plein, peut-être même davantage. Et si on lit par exemple Howard Baker dans un texte qui s'appelle « The Culture of a Deviant Group, the Jazz Musician », on voit que c'est pas du tout propre au punk. Mais ce qui serait propre à ce mouvement... c'est qu'il porte une critique sur la société et qu'il professe une volonté d'autonomie vis-à-vis du corps social, qui est beaucoup moins évidente dans les paroles du rock, qui lui clame essentiellement une aspiration de la jeunesse à trouver sa place dans le corps social. Le rock n'entend pas détruire la société ou même simplement la modifier. Cependant, la puissance musicale du rock demeure un réservoir pour le punk et une référence qu'il renouvelle. On peut le voir par exemple dans le cas des Sex Pistols, qui interprètent, même si c'est après leur premier et seul véritable album studio, donc Nevermind the Bollocks de 77, qui interprètent des titres comme Something Else d'Eddie Cochran, un morceau que Sid Vicious interprète sans décalage particulier. Et c'est bien sûr sur du rock que les Pistols se sont entraînés avant d'avoir leur propre répertoire. On sait aussi que leur manager, McLaren, était fan de rock, que ses créations avec sa compagne Westwood à la boutique Sex étaient des vestes de Teddy revisitées. On sait que Johnny Rotten révérait Can, qui est un groupe de krautrock, et que Sid, qui n'était pas encore Sid Vicious, arborait des pattes d'eff et un t-shirt à l'effigie de David Bowie. Avant que McLaren n'en fasse une espèce de copie Destroy de Richard Hell, qui s'appelait John d'ailleurs, arborait une coupe à la James Dean qui était son héros. Donc on a quand même des traces de cette période antérieure. Par exemple, le t-shirt Vive le Rock de Little Richard qui est créé à la boutique Sex. On voit pas de rupture vraiment fondamentale, quoi. Alors, ils sont pas tout à fait détachés de ces références aux aînés, que ce soit le rock des origines, ou bien des formes même plus dérivées comme le glam, même si c'est pas le glam de Slade, mais plutôt celui de Bowie. Ce qui change avec le punk, dont les prémices se font entendre avec des groupes qualifiés aux États-Unis, évidemment a posteriori, de proto-punk, c'est une forme de positionnement nouveau, plus artistique et plus libre vis-à-vis de la production musicale. Évidemment, il le fait de façon adaptée, non pas par un élitisme qui serait inapproprié, mais parce que Matthew Bannister appelle une approche ironique et auto-réflexive, d'où l'esthétique trash et des formes de collage qui mêlent la pop culture et des déviances dans une approche qui se veut post-moderne. Il écrit « Plutôt que l'authenticité, le punk proclame l'inauthenticité. Plutôt que la pureté, l'hétérogénéité. Plutôt que des distinctions bien tranchées, il mixe tout ensemble. Il inverse la hiérarchie des valeurs culturelles reçues. De la même façon, ce qu'il appelle l'esthétique du rock alternatif, dans le quoi il met à la fois Andy Warhol, le hard rock et le punk, dit sont structurés de la même façon autour du concept de négation. On trouve un même retrait de la figure de l'auteur, une auto-négation. La musique est déclarée autonome par rapport au mainstream et elle est négative et critique dans son essence. L'indifférence devient une forme de pouvoir suprême et ça amène à une validation de textes polysémiques, ironiques et de formes ouvertes. Alors bien sûr, face au rock progressif et ses orchestrations complexes qualifiées d'ennuyeuse musique pour hippie, avec des groupes comme Yes, Genesis ou les Pink Floyd, certains suivent le chemin ouvert par le Velvet, les MC5 ou les Stooges. Et même s'ils sont bruts, ces derniers, donc les Stooges, ne sont pas aisants de références littéraires. Quant au MC5 ou les Motor City 5, les 5 de Détroit, ils jouent en fait un mélange de rock et de free jazz et viennent plutôt des mouvements beatniks. D'ailleurs, l'un d'eux, Fred Sonic Smith, épousa Patti Smith, qui est elle-même à la frontière de ces univers. Après, tout le monde peut discuter la chose. Mais le pas n'est pas si difficile à franchir. Le MC5 représente des hippies radicaux qui appellent à la révolution. Ils sont managés par un hippie leader du White Panther Party. Et leur radicalité est séduisante dans un univers musical qui est saturé par des poseurs égocentriques, pour beaucoup. Alors pour ce qui est des Stooges, le lien avec le punk est quand même évident, avec un jeu musical et scénique primitiviste, un corps malmené, des outrances, des références au SM, et ce raw power, c'est toute la puissance crue de ce qui commence à être du punk. Et même si on se doit d'écouter les dénégations de Johnny Sanders, le guitariste des New York Dolls et des Heartbreakers, à qui on posait toujours la même question, comment va le punk, à quoi il répondait qu'il n'en était pas un, qu'il n'en savait rien, puisque effectivement il faisait du rock'n'roll, on n'en voit pas moins ce qui distingue quand même les rockers, même les plus sulfureux et borderline comme Vince Taylor ou Gene Vincent, des Dolls ou des Heartbreakers. Il y a une façon de malmener le musicien ou le chanteur, de le rendre accessible, de l'avilir, de le travestir, lui faire subir des outrages avec un décalage critique de la figure auctoriale et de celle de l'interprète qui n'a pas du tout sa place chez les rockers. Quel rocker accepterait de se faire cracher dessus, par exemple, sans envoyer son service d'ordre trouver vengeance? Et puis les rockers dérouillaient les punks chaque fois qu'ils les croisaient au motif qu'ils auraient été dégénérés. Les rockers se veulent machos, forts, les punks se prétendent faibles et sexuellement indéterminés. Pourtant, les deux portent les mêmes perfectos et avec parfois les mêmes clous et les mêmes croix de fer. Maintenant, si on regarde du côté arty du rock et qu'on prend le cas magistral du Velvet, où on distingue deux périodes avec et sans John Cale, après 69 avec des morceaux enjoués comme Rock'n'Roll ou Sweet Jane, et avant avec Cale avec des morceaux lugubres et lancinants comme Sister Ray ou Heroin, on voit d'ailleurs comment l'influence d'un seul musicien peut amener une influence, on peut amener à déterminer celle de milliers d'autres, hein, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Avec la présence de Cale, il y a toute une espèce il amène le groupe vers une avant-garde qui insiste sur le sexe, le fait que le sexe et la musique c'est de la douleur, de l'humiliation, de la perversité, les amène à un extrémisme musical avec des notes fausses, des pratiques d'enregistrement et de mixage non orthodoxes, et puis finalement une approche du rythme qui est pas syncopée, qui est pas du tout groovy, et tout ça qui va d'une forte influence donc sur cette culture rock alternative, donc qui est très différente du rock qui précédait. De la même façon, comme on le disait plus tôt, avec le Velvet, on a une espèce de combinaison d'une désincarnation, d'une distance et un raffinement de la haute culture européenne donc que Cale représentait, une combinaison donc de cette distance et de cette haute culture un peu raffinée avec l'immédiateté des masses, des formes de culture de masse que représentait le rock'n'roll. Alors pour ce qui est du contexte des arts plastiques ou de la littérature, des expériences qui étaient à l'époque assez poussées, le mouvement Cobra, les situationnistes, Fluxus, qui est un producteur d'anti-art, tous ces mouvements étaient ouvertement anti-bourgeois et leurs actions valaient bien celles des punks pour ce qui est de l'irrévérence et du scandale. Et d'ailleurs, elles ont en grande partie influencé ceux parmi les punks qui s'intéressaient à l'art. Il y en avait, d'ailleurs, il ne faut pas confondre primitivisme et primitif, puisque le punk est un courant assez hétérogène. Comparativement à d'autres mouvements musicaux, il est davantage, à mon avis, et il compte des acteurs très divers. Je passerai très vite sur le mouvement No Wave, qui renseigne un peu le rapport du punk au rock. Le punk était déjà moribond pour certains en 78. En tout cas, il représentait plus la pointe de la nouveauté en matière de musique et de style. Il y a eu plusieurs groupes comme aux États-Unis comme James Chance and the Contortions ou bien Teenage Jesus and the Jerks qui ont tenté de se débarrasser de ses racines rock, c'est-à-dire du rhythm and blues. qui privilégiait une approche plus expérimentale, plus intellectuelle et plus électronique, avec en particulier l'apport des claviers, qui était absent du punk, mais qui était déjà présent dans ce qu'on appelait le post-punk, qui en fait démarrait comme le punk au même moment, qui n'a rien de postérieur au punk. À propos de Teenage Jesus, le musicien J.G. Thirdwell écrit, donc Teenage Jesus, hein, le groupe de Lydia Lunch, il écrit « Les Pistols avaient en eux du Chuck Berry et eux n'en avaient pas ». C'est également ce qu'écrit Byron Coley, co-auteur d'un livre qui s'appelle « No Wave, Post-Punk Underground » et qui écrit « Une guitariste comme Lydia Lunch, c'est quelqu'un qui clairement ne venait d'aucune sorte de tradition, elle n'avait pas le riff Chuck Berry ». Alors de même, l'énorme courant qu'on a donc, comme je disais, qualifié de post-punk et qui était toujours du punk mais avec des claviers, des influences jazz et ou électroniques, avec des groupes comme The Fall, Joy Division ou Magazine. Ce courant plus expérimental et plus riche musicalement, plus introspectif du côté des textes, a existé dès les débuts du punk. En réalité, il n'a rien de postérieur, comme je le disais. Et il rappelle... dans le domaine des arts plastiques et du cinéma, l'expressionnisme allemand, par exemple, qui l'a beaucoup inspiré. Et tout ce que Sid Vicious ou Janus Sanders connaissaient de l'Allemagne, avec tout le respect que je leur dois, c'était Adolf Hitler et les décorations nazies. Donc, ils n'avaient pas forcément poussé la chose aussi loin que ce qu'on appelait donc, le post-punk. Alors, comment gérer l'héritage encombrant du rock'n'roll quand on se veut la génération de la table rase? Ben, comme tous les autres genres avant lui, que ce soit le jazz conspué par le classique, la pop moquée par le jazz, le punk, en se déroulant dans le temps, s'est mué en tradition. Et il a d'ailleurs d'autres parents que le rock, pour emprunter donc son vocabulaire à la parenté. Et pour commencer, le beat, mouvement essentiellement littéraire, mais qui traduit tout un rapport à l'existence et qui a eu une énorme influence sur lui. Et j'espère qu'on trouvera une occasion donc, de dérouler les deux... partie que j'avais prévue, donc sur une première sur la Beat Generation et une autre sur les hippies, avec notamment l'aide de Christophe Baker qui a écrit une thèse sur Burroughs et qui m'a donné pas mal de tuyaux tout à l'heure sur l'apport de la Beat Generation au punk. Voilà, donc j'espère qu'on trouvera un moment pour le faire. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas trop longue.
Alors, moi, j'aurais deux remarques. Une par rapport au titre de ton intervention. Donc là, c'est le côté prof de français. Parce que tu parles d'oxymore, je me dirais donc peut-être que le rock ou le rocker, c'est un terme polysémique. Et ça permet d'ouvrir vers plein de choses, et c'est ce que tu commences à montrer. Et par rapport à la référence à Sanders, dont je vais parler moi tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment deux nuances de différence de dire moi je me nomme rocker, je me nomme d'une certaine façon, mais on peut jamais empêcher notre public ou les gens qui nous suivent de nous récupérer autrement, et donc que Thunder se dise rocker, ça n'empêche pas que des gens le jugent punk ou autre chose.
Oui, bien sûr. Après on parlait de Burroughs tout à l'heure avec Christophe. Qu'on a appelé pape du punk et ça lui déplaisait souverainement. Bien sûr, on ne peut pas empêcher en public, après, de faire... quand on est en personnage public, on est de toute façon bouffé. Et voilà, c'est la rançon de la gloire. Il n'empêche que, voilà, pour moi, dans le punk, il y a des mouvements qui sont plus clairement liés au rock'n'roll et d'autres moins. C'est ce que j'essaie de montrer avec donc ces différentes formes d'instrumentation. Et ce respect des formes du premier rock'n'roll ou non, bien sûr, pour moi la réponse est claire, le punk il s'inscrit c'est pour ça que j'ai fait cette intervention, il s'inscrit quand même dans le droit fil du rock'n'roll. Sinon je ne suis pas sûre que je m'y serais intéressée, puisque pour moi, voilà, le rock'n'roll c'est quand même quelque chose de... C'est pas du tout indépassable, parce que je suis aussi de la génération de la musique électronique, donc ça n'est pas du tout indépassable ni indispensable. Mais oui, c'est des mouvements qui sont justement, c'est des faux frères. Alors les vrais faux frères, j'espère que je pourrai en parler, c'est punk et hippie, mais eux aussi ils ont beaucoup de choses en commun. quoi qu'ils en aient, mais je regrette de ne pas être là tout à l'heure pour ton intervention. Heureusement qu'elle sera enregistrée. Mais j'aurais bien voulu savoir ce que tu en disais. Après, son influence, c'est clairement quand même le rock. De la même façon, j'ai souvent entendu ici les Ramones, c'est pas du punk. Il reste plus grand-chose. Après, les Clash, c'est pas du punk. Si on veut, mais les racines du punk, c'est quand même le rock, très clairement. Après, elles sont interprétées différemment, quoi. C'est des nuances.
Les faux frères, c'est les Ramones qui avaient choisi cette fausse fratrie pour faire un pied de nez à la fois à la scène rock, mais aussi au reste du monde. Complètement. Complètement. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre. Il y avait Christophe Baker.
Merci, c'était super. Vraiment, c'était super intéressant de revenir de cette manière-là sur le punk et sur l'hybridité. Quand tu parlais de James Chance, il y avait... c'était juste une remarque, mais enfin, tu dois savoir, mais il y avait cette compilation justement quand on parlait d'hybridité qui était No New York. Je sais plus si c'est 78, mais c'était produit. Est-ce que c'était produit par Brian Eno ou c'était simplement une sélection de Brian Eno? Ce sera à vérifier, mais c'était intéressant parce que c'était, enfin, l'hybridité Brian Eno. Quand on parle de ses premiers albums qui étaient de rock. Avec des instruments pas accordés jusqu'à ces albums ambiantes, c'est un des papes de l'hybridité, quoi. Ouais. Voilà, merci encore.
Oui, c'est pour ça que je disais en introduction, il n'y a que les fans pour être sectaires, les musiciens ne le sont pas, ne le sont jamais.
Moi, je rebondis sur ce que tu as dit en conclusion sur la Beat Generation. Ouais. Je repense à un groupe, il joue toujours, hein, Willie Loco, qui était la scène bostonienne punk, Willie Loco and the Boom Boom Man, qui d'ailleurs est passé par le Velvet, fin la fin. Et ouais. Un de ses morceaux sur le premier disque, c'est Kerouac, il s'appelle Kerouac.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais.
Oh, Kerouac, ouais. Tu es au top de, ouais, de mes pensées. Ouais, donc, ouais, vraiment, ouais, clairement dans le, ouais, texte. Ouais. Effectivement, il y a cette. Cette filiation parenté, assumée en tout cas.
Fait, ouais. Tout à fait. Et on en parlait avec Christophe. J'espère que. Enfin, j'ai déjà écrit cette partie, mais je vais la réécrire parce qu'il m'apporte beaucoup de précisions.
Et pour revenir sur les Ramones, c'était le nom qu'avait choisi, je crois, Didi, hein, Ramone, en référence au nom que Paul McCartney avait pris à l'époque où il jouait pas sous son vrai nom.
Oui.
Donc,
ouais,
effectivement, hein, on peut aller loin dans l'interprétation.
Voilà. Ouais. Un fan aurait du mal à accepter le lien entre Didi et Paul McCartney, quoi. A priori.
Quand on parle de sectarisme chez les fans, effectivement, on retrouve ça aussi chez les fans de cinéma, de bis et d'exploitation, où on peut des fois quasiment s'écharper pendant des nuits pour dire « Ah, mais est-ce que ça, c'est de la série B, de la série Z, du nanar, etc. etc. » Et avec des réalisateurs qui... Là, je parle des réalisateurs, en tout cas des producteurs qui disent « Mais moi, j'avais pas forcément conscience de vrai dans ce... Dans cette là-dedans, je suis allé dans des endroits où on me permettait d'avoir de l'argent.
Ouais.
Et donc par rapport au punk, oui, effectivement, il y a le côté bon. Ben, si je joue dans cette scène-là, bon, ben, je vais pas forcément me couper de ça, et que ce soit punk rock ou autre. J'ai pensé moi à une citation d'un monsieur qui est dans la salle, qui s'appelle Ty Luke, et dans un livre Nyark Nyark, il lui demandait de réagir sur le titre de ses chansons.
Ouais.
Et sur votre premier album, vous avez une chanson qui s'appelle Rockers.
Ouais.
Et dans le bouquin, Ty Luke dit, bon, ben, Rockers, parce qu'il n'y a rien à ajouter. Et je trouve que le terme Rockers nous amène autant vers le rock'n'roll que vers le reggae ou autre chose.
Oui, tout à fait. Ouais.
La référence, mais même... Prenons un groupe comme Motorhead qui est inclassable, mais c'est toujours ce qu'il disait. On s'appelle Motorhead, on joue du rock'n'roll, donc on est vraiment sur la base et la racine.
Oui, donc le rhythm and blues, il est toujours un petit peu là.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ton intervention, c'est que tu fais référence évidemment aux groupes qui sont reconnus ou au moins partagés sur cet héritage. Je pense aux New York Dolls, par exemple, ou à Iggy, évidemment, les Stooges. Et on voit bien quand même se dessiner des... Parce que les Dolls, Malcolm McLaren les a managés sur la fin de leur carrière. Ça n'a pas été sa plus belle réussite, d'ailleurs. Et puis, Johnny Thunders est sorti des Dolls, a fait les Heartbreakers, Like a Motherfucker. Enfin, c'était... Voilà, donc on voit quand même se dessiner des chemins. Et quant à Iggy Pop, il était intronisé, en tout cas en France, je me souviens, par Rock and Folk, comme le parrain du punk. Enfin, il y a une couve en 77 où c'est carrément, clairement dit, quoi, hein, des 77. Donc les liens, ils sont posés, et ils sont posés par le, on va dire, le monde musical. Voilà, donc...
Oui, c'est pour aller dans le sens de ce que tu dis. Par ceux qui écrivent dessus, ouais, aussi, quoi, ouais, bien sûr. Ouais. Tout à fait.
Ben, merci, je crois qu'on peut réapplaudir Natacha pour cette belle intervention. Et on attend la suite avec impatience.